Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XIIe, XIIIe siècle? Nouvelle recherche originale. Donc, vous voyez, là, je dépasse l'âge d'or. Mais pendant longtemps, on a dit, l'âge d'or de cette civilisation, c'est 9e, 10e, 11e. Là, je vous donne quelques éléments qui ne sont pas connus, qui montrent en fait que cette dynamique ne pouvait pas s'arrêter brutalement et que les fleurs continuaient à éclore. Voilà, des fleurs tout à fait nouvelles. Nouvelle recherche originale en mathématiques. Je vous donne uniquement des noms, hein, parce que certains étaient inconnus à 25 ans. Certains auteurs et certaines de leurs innovations. Donc ça mériterait des conférences. Je l'ai fait, ces conférences, dans des universités, pour les étudiants, parce que parfois, pour être convaincant, il faut montrer la technique. Par exemple, ce monsieur, ben, il est novateur en combinatoire. Nouvelle discipline qui n'existait pas avant. Analyse combinatoire. Il est maghrébin. Ce monsieur est novateur dans les modèles planétaires. Ce monsieur, 12e siècle, mort en 1228. 13e siècle, mort en 1274. Ce monsieur est andalou et a vécu à Marrakech. Ce monsieur est iranien. Il a vécu à Maraga, où il était directeur du premier grand observatoire musulman. Et il a développé ce qu'on appelle le modèle planétaire qui remplace le modèle de Ptolémée. Rien que ça. Celui-ci est l'un des plus grands spécialistes de mécanique, hydraulique en particulier, des automates, qui s'appelle Al-Jazari. Il est du XIIe siècle. Il est mort vers 1204. Il est de Damas. Donc c'est un Syrien. Alors, tous ces livres nous sont parvenus, hein, par le hasard des choses. Il y a une copie unique au monde ici. Celle-là, je l'ai découverte avec un collègue. Donc, il y a une copie au monde. J'ai publié la partie combinatoire il y a 25 ans. Ce monsieur, son texte a été publié, traduit même en anglais. Ce monsieur, ses livres sont bien connus. Ce monsieur, Ibn Nafis, médecin du XIIIe siècle, d'origine syrienne, qui a vécu au Caire, était directeur d'un hôpital. Bien, ce monsieur a découvert la petite circulation du sang au XIIIe siècle. Bien. Ce monsieur, qui est iranien, donc d'origine persane, comme on dit en général, farisi, eh bien, c'est le premier qui a établi, de manière scientifique, ce en quoi avaient échoué ses maîtres avant lui, la théorie de l'arc-en-ciel, l'explication physique de l'arc-en-ciel. Il y a eu le renouveau de la logique au XIIe, XIIIe siècle, alors qu'on pensait que la philosophie avait totalement décliné. Ça, là, on s'est trompé. Et enfin, en rouge, le phénomène, alors que ce que je vous ai montré tout à l'heure en rouge, c'était les prémices, Constantin l'Africain, c'est une aventure individuelle. Là, c'est un phénomène sociétal. C'est-à-dire que là, nous sommes en Europe, ça concerne l'Europe, ce n'est pas un musulman qui va en Europe. Ce sont des groupes d'individus, des intellectuels, dirions-nous, des clercs, on dirait à l'époque, des séculiers, qui sont en rupture de banc par rapport à la culture ecclésiastique, par rapport à la culture féodale, et qui vont d'ailleurs, comme par hasard, vivre dans les fameux bourgs des nouveaux espaces économiques et culturels européens, et qui vont avoir besoin de consommer la nouvelle science, disent-ils. Et nous avons des témoignages où ces jeunes disent « La nouvelle science n'est pas à Paris, à la Sorbonne. La nouvelle science n'est pas à Oxford. La nouvelle science n'est pas à Aurillac. Elle est au sud de Barcelone. » Et ils vont faire leur chemin de croix, si j'ose dire, mais au sens positif. D'ailleurs, c'est le même chemin que le chemin de Saint-Jean de Compostelle. Et puis, à un moment donné, quand ils arrivent vers Barcelone, ils bifurquent et puis ils vont vers Cordoue, vers Tolède. Et ils s'installent à Tolède. Et nous avons le grand phénomène qui va durer 12e, 13e, 14e siècle même, de traduction de l'arabe à l'hébreu, au latin, puis aux langues vernaculaires de l'époque, comme le catalan, etc., comme le roman. Et c'est comme ça que va se faire donc la diffusion. Alors cela va se faire d'ailleurs pendant et parallèlement à des phénomènes qui ne sont pas scientifiques et qui sont les grands phénomènes géostratégiques, qui sont les croisades d'un côté, qui vont commencer à la fin du XIe siècle. Donc vous voyez, hein, début 12e traduction, fin 11e jusqu'au 13e, phénomène des croisades. Les causes du développement des deux phénomènes sont à peu près les mêmes, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Les uns vont chercher la science chez cet espace scientifique dont ils ont entendu parler, les autres vont libérer Jérusalem, mais en fait chercher à déverrouiller, parce que vous avez compris, hein, libérer Jérusalem, c'était le discours idéologique. pour mobiliser les gens, mais c'était pour déverrouiller le monopole économique qui était entre les mains des musulmans depuis le 8e siècle. Et ça, c'était intenable pour l'Europe. Donc l'Europe va réussir, après 2 siècles de croisade, non pas à gagner des territoires conséquents de l'Empire musulman, c'était un géant, c'était un éléphant. Pour eux, c'était des piqûres de mouches, hein, ou de moustiques, les attaques. Bien. Mais c'était pour déverrouiller, et ils ont réussi. C'est pour ça que l'une des conséquences des croisades n'est pas visible, n'est pas enseignée à nos enfants aujourd'hui. Et c'est la plus importante. C'est que la conséquence des croisades, ce n'est pas d'avoir libéré une fois ou deux fois Jérusalem, puis ensuite d'ailleurs récupéré par les musulmans, d'avoir libéré des territoires autour de Jérusalem. C'est d'avoir récupéré le monopole du commerce méditerranéen qui va devenir entre les mains des villes commerçantes italiennes, alors qu'il était entre les mains des musulmans depuis le 8e siècle. C'est ça la grande victoire de l'Europe. Et c'est ça qui va déterminer beaucoup de choses après. Évidemment, quand on déverrouille tout ça, on va déverrouiller tout ça, eh bien, on va à ce moment-là avoir une plus grande puissance avec des monopoles. Puis on va préparer le fameux contournement de cette Méditerranée, de cet espace immense, pour aller en Inde et puis aller accidentellement, comme vous le savez, en Amérique. Bien, ce n'était pas le but. Bien. Et évidemment, le second phénomène qui va se faire en même temps que ces traditions scientifiques se développent, ce sont les invasions mongoles. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si on veut un jour enseigner à nos enfants, du moins à nos adolescents, l'histoire de la Méditerranée ou l'histoire du Moyen-Âge, il faut enseigner les croisades en même temps que les invasions mongoles, sinon on ne comprend pas. Enseigner les croisades en même temps que l'histoire du développement scientifique en Méditerranée, sinon on ne comprend pas. En même temps que l'histoire économique de cet immense espace, sinon on ne comprend pas les enjeux. Bien. Et effectivement, lorsque la dernière croisade s'épuise devant Tunis, vous le savez, elle était dirigée par Saint-Louis, elle s'arrête après la mort de Saint-Louis, bien, Louis IX, eh bien, commence la grande aventure mongole, qui, elle, sans faire de mots faciles, parce qu'elle vient d'Asie, a été vraiment ressentie par les sujets de l'islam comme un tsunami. Ah oui, les croisades n'ont jamais été considérées comme un tsunami. D'abord, elles étaient étalées dans le temps. Ensuite, les croisés faisaient la guerre d'une certaine manière, on les connaissait, parce que c'était des ennemis qui ont été vaincus plusieurs fois. Et puis, il y avait des traditions, il y avait des contacts. Là, il n'y avait pas de contact avec les Mongols. Rien. Et donc, il y avait des techniques aussi de guerre chez les Mongols qui étaient là, de raser les villes, de tuer les habitants quand ils résistaient. Voilà. Bref, ça mériterait de savoir, est-ce que ces deux grands événements internationaux vont influer sur la dynamique des sciences? Je laisse la question à votre réflexion. Si j'ai quelques minutes, je vous donnerai quelques hypothèses parce que nous n'avons pas de réponse définitive. Les recherches ne sont pas assez avancées. Parce que ce sont des recherches qui sont à un niveau au-dessus, bien sûr, au-dessus des événements. C'est méta, comme on dit. Hein. Ça, c'est beaucoup plus délicat. Bien. En particulier, on ne sait rien sur l'histoire des mentalités dans ces régions. Or, aujourd'hui, nous savons, grâce à l'école des Annales à Paris, que l'histoire des mentalités, quand on commence à la développer, et ça a demandé 40 ans pour la développer, ça éclaire beaucoup la signification de l'histoire politique, de l'histoire institutionnelle, de l'histoire économique. Et l'histoire des mentalités des peuples, eh bien, si on ne l'écrit pas, on ne comprend pas beaucoup de choses.